Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire les entretiens de 1953 de mère. Alors, la première question posée à mère le 23 juin 1929 à partir d'un entretien du 23 juin 1929. Alors la question, la méthode par laquelle vous aurez le plus de succès pour obtenir une guérison dépend de la conscience que vous avez développée en vous et du caractère des forces que vous êtes capable de faire entrer en jeu. Vous pouvez vivre dans la conscience de la guérison radicale et par la force de votre formation intérieure, amener lentement le changement extérieur. Ou bien, si vous connaissez et voyez la force qui est capable d'effectuer les choses requises, et que vous sachiez les manier, vous pouvez l'appeler et la concentrer aux endroits où son action est nécessaire, et elle-même amènera le changement. Ou encore, vous pouvez présenter votre difficulté au divin en lui demandant de vous guérir en plaçant toute votre confiance dans le pouvoir divin. La question d'un étudiant. Quelle est cette conscience de la guérison radicale? Réponse de mère. Cela ne veut pas dire qu'il existe une conscience spécifique de la guérison radicale. Cela veut dire vivre dans un état de conscience qui est conforme à la guérison radicale. Comment expliquer? Vous avez en vous un tableau, une image ou une formation qui réalise en elle-même tous les rapports et tous les éléments nécessaires pour que la guérison puisse exister et qu'elle soit totale. Cela s'appelle avoir la conscience de la guérison radicale. Cela ne veut pas dire qu'il y ait un état de conscience qui soit en lui-même une guérison radicale et que si vous obtenez cette conscience, eh bien, vous obtenez la guérison. Ce n'est pas comme cela. Tu as compris la différence? En certains, l'aspiration se meut dans le plan mental ou dans le vital. D'autres ont plus une aspiration spirituelle. De la qualité de l'aspiration dépend la force qui répond et le travail qu'elle vient faire. Faire le vide en soi dans la méditation, créer un silence intérieur. Cela ne veut pas dire que l'on ne soit plus rien ou que l'on soit devenu une masse inerte et morte. À faire le vide, et tu n'invites ce qui va le remplir. C'est-à-dire que l'on permet une détente dans l'insistance de la conscience sur la réalisation. Cependant, la nature de la conscience et le degré habituel de l'insistance déterminent non seulement les forces que l'on met en jeu, mais également la manière dont elles agissent, si elles aideront et accompliront ou bien échoueront en même temps si elles entraveront et seront nuisibles. question. Quelle est la différence entre l'aspiration dans le mental et l'aspiration dans le vital et l'aspiration spirituelle? De quelque manière aspirez-vous dans le mental, aspirez-vous dans le vital ou aspirez-vous spirituellement? Une aspiration mentale, c'est le pouvoir de penser qui aspire à avoir la connaissance, par exemple, ou bien avoir le pouvoir de s'exprimer bien, ou bien avoir des idées claires, un raisonnement logique. On peut aspirer à beaucoup de choses. Que toutes les facultés, toutes les capacités mentales soient augmentées et mises au service du divin. C'est une aspiration mentale. Ou bien, tu peux avoir une aspiration dans le vital si tu as des désirs ou des tourments, des orages, des difficultés intérieures. Tu peux aspirer à avoir la paix, à être tout à fait impartial, sans désir et sans préférence, et à être un bon instrument docile qui n'ait pas de caprice personnel, qui soit toujours à la disposition du divin. Ça, c'est une aspiration vitale. Tu peux avoir une aspiration physique, que le corps sente qu'il faut qu'il obtienne une sorte d'équilibre où toutes les parties de l'être seront bien balancées et qu'on ait le pouvoir de tenir la maladie à distance ou de la vaincre rapidement si elle entre par malice et que le corps fonctionne toujours normalement, harmonieusement, dans une parfaite santé. Ça, c'est une aspiration physique. Une aspiration spirituelle, c'est d'avoir un intense besoin de s'unir au divin, de se donner totalement au divin, de ne pas exister en dehors de la conscience divine. Que ce soit le divin qui soit tout pour vous dans votre être intégral et que vous ayez le besoin d'une communion constante avec lui, du sens de sa présence, de sa direction dans tout ce que vous faites et de son harmonisation de tous les mouvements de l'être. Ça, c'est une aspiration spirituelle. Mère, question. L'aspiration vient-elle du psychique? Pas nécessairement. Chaque partie de l'être peut avoir son aspiration propre. Question. Comment le physique peut-il parvenir à l'aspiration puisque c'est le mental qui pense? Tant que c'est le mental qui pense, ton physique est quelque chose aux trois quarts inerte et qui n'a pas de conscience propre. Il y a une conscience physique propre, une conscience du corps. Le corps est conscient de lui-même et il a sa propre aspiration. Tant que l'on pense à son corps, on n'est pas dans la conscience physique. Le corps a une conscience qui lui est tout à fait personnelle et très indépendante du mental. Le corps a complètement conscience de son fonctionnement propre et de son équilibre propre ou déséquilibre, où il devient absolument conscient d'une façon tout à fait précise. S'il y a un désordre à un endroit ou à un autre, et comment dirais-je, il est en relation avec cela Il le veut très exactement, même s'il n'y a pas de manifestation extérieure. Le corps a conscience si tout le fonctionnement est harmonieux, bien balancé, bien régulier, se produisant comme il faut. Il a cette espèce de plénitude, de sens de plénitude, de joie et de force. Quelque chose comme une jolie joie de vivre, d'agir, de se mouvoir dans un équilibre plein de vie et d'énergie. Ou alors, le corps peut être conscient qu'il est maltraité par le vital et par le mental, et que cela nuit à son équilibre propre, et il en souffre. Cela peut produire un complet déséquilibre en lui, et ainsi de suite. On peut développer sa conscience physique au point que même si l'on est totalement extériorisé, si le vital sort complètement du corps, le corps a une conscience personnelle et indépendante qui fait qu'il peut se mouvoir, il peut faire toutes sortes de choses très simples sans que le vital soit là tout à fait indépendamment. Le corps peut apprendre à parler. Le mental et le vital peuvent être en dehors de lui, très loin, occupés ailleurs. Mais par le lien qui les réunit à la matière, ils peuvent encore s'exprimer par le corps, où il n'y a plus ni mental ni vital, et qui cependant peut apprendre à parler et à répéter ce que les autres disent. Vous comprenez? Le corps peut bouger. Je ne veux pas dire qu'il puisse faire des efforts considérables, mais il peut se mouvoir. Il peut faire des petites choses très simples. Il peut, par exemple, écrire, apprendre à écrire, comme il peut apprendre à parler. Il parle. C'est une façon un peu, comment dire, lente, un peu difficile. Mais enfin, il peut parler clairement, suffisamment clairement pour qu'on puisse comprendre. Et pourtant, le mental et le vital peuvent être tout à fait sortis, complètement à l'extérieur. Il y a une conscience du corps. Et alors, quand on a développé cette conscience du corps, on peut avoir la perception très claire de la contradiction entre les différences conscientes. Alors, je me permets de répéter. Alors, quand on a développé cette conscience du corps, on peut avoir la perception très claire de la contradiction entre les différentes consciences. Quand le corps a besoin d'une chose et qu'il est conscient que c'est cela qu'il faut et que le vital en veut une autre et que le mental en veut une autre, eh bien, il peut y avoir très bien une discussion entre eux, des contradictions et des conflits. Et on peut très bien discerner qu'il est l'équilibre du corps, le besoin du corps tout seul, de quelque manière que ce soit. Et de quelle manière le vital intervient et détruit cet équilibre, le plus souvent et nuit beaucoup au développement parce qu'il est ignorant. Et quand le mental arrive, il fait encore un autre désordre qui vient à celui entre le vital et le physique, introduisant ses idées, ses normes, ses principes, ses règles, ses lois et le reste. Et comme il ne se rend pas compte exactement des besoins de l'autre, des besoins du corps, il veut faire ce que le monde fait. Les êtres humains sont d'une santé beaucoup plus fragile et incertaine que les animaux, parce que leur mental intervient et dérange l'équilibre. Le corps, livré à lui-même, a un instinct très sûr. Par exemple, jamais le corps livré à lui-même ne mangera quand il n'a pas besoin de manger ou ne prendra quelque chose qui lui fera du mal. Ou bien, il dormira quand il a besoin de dormir. Il agira quand il a besoin d'agir. L'instinct du corps est un instinct très sûr. C'est le vital et le mental qui le dérangent. L'un, par ses désirs, ses volontés, ses caprices. L'autre, par ses principes, ses dogmes, ses idées, ses lois. Et malheureusement, dans la civilisation telle qu'elle est comprise, avec l'éducation qui est donnée aux enfants, cet instinct si sûr du corps est complètement annulé. C'est le reste qui domine, c'est-à-dire le mental et le vital. Et il arrive ce qui arrive. On mange des choses qui vous font mal. On ne se repose pas quand on en a besoin. Ou l'on se repose trop quand on n'en a pas besoin. Ou l'on fait des choses que l'on ne doit pas faire. Et on abîme sa santé complètement. Une autre question. Quelquefois, douce mère, quand les enfants sont intéressés par quelque chose, ils ne veulent pas aller dormir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Juste quelques minutes avant, ils disaient avoir sommeil et puis ils commencent à jouer. Ils disent qu'ils ne veulent pas aller dormir. Il ne faudrait pas les laisser jouer au moment où il y a le sommeil. Justement, c'est l'introduction des mouvements du vital. Un enfant qui ne vit pas trop avec les grandes personnes, il est mauvais pour les enfants de vivre beaucoup trop près avec les grandes personnes. Un enfant qui est laissé à lui-même spontanément, il dormira, quoi que ce soit qu'il fasse au moment où il est nécessaire qu'il dorme. Seulement, quand les enfants sont habitués à vivre avec les grandes personnes, eh bien, ils prennent toutes les habitudes des grandes personnes. Surtout quand on leur dit « Oh, tu ne peux pas faire ceci parce que tu es petit. » Quand tu seras grand, tu le feras. Tu ne peux pas manger ça parce que tu es petit. Quand tu seras grand, tu pourras le manger. À cette heure-ci, il faut que tu ailles dormir parce que tu es petit. Alors, naturellement, il y a en eux cette conscience qu'il faut devenir grand à tout prix et avoir l'air d'être grand. Une autre question. L'intensité même de la foi peut vouloir dire que le divin a déjà décidé que la chose en question sera faite. une foi inébranlable et le signe de la présence de la volonté divine, une preuve de ce qui sera, une foi dynamique et une grande confiance, ne sont-elles pas la même chose? Réponse de mère. Pas nécessairement. Il faudrait savoir quelle est l'étoffe de la foi et quelle est l'étoffe de la conscience, de la confiance, pardon. Parce que, par exemple, si vous vivez normalement dans des conditions tout à fait normales, pas avec des idées extravagantes et une éducation déprimante, eh bien, pendant toute la jeunesse et généralement jusqu'à une trentaine d'années, on a une confiance absolue dans sa vie. Si par exemple vous n'êtes pas entouré de gens qui, dès que vous avez un rhume au cerveau, se mettent à l'envers et se précipite chez le docteur et vous donne des médecines. Si vous êtes dans un milieu normal et si vous attrapez quelque chose, un incident ou une petite maladie, il y a dans le corps cette certitude, cette confiance absolue que ça ira bien. Ce n'est rien. Ça va passer, c'est sûr de passer. Je serai tout à fait bien demain ou dans quelques jours, c'est sûr de guérir. Quoi que ce soit que l'on attrape, ça, c'est la condition normale du corps. Une confiance absolue. Qu'il y a toute la vie devant lui et que tout ira bien et que cela aide énormément. On guérit 9 fois sur 10, on guérit extrêmement rapidement avec cette foi et cette confiance. Ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un accident, ça va passer, ce n'est rien. Et il y a des gens qui gardent cela pendant très longtemps, une sorte de confiance. Rien ne peut leur arriver. Leur vie est là devant eux totale et rien ne peut leur arriver. Et ce qui leur arrivera n'a aucune espèce d'importance. Tout ce qui leur arrivera n'a aucune espèce d'importance. Tout ira bien forcément. Ils ont toute la vie devant eux. Naturellement, si vous vivez dans un milieu où il y a des idées morbides et que l'on passe son temps à vous raconter des choses désastreuses et catastrophiques, alors vous pouvez penser mal. Et si vous pensez mal, cela réagit sur votre corps. Autrement, le corps, tel qu'il est, peut garder cela pendant 40 ans, 50 ans. Cela dépend des gens. Ceux qui savent vivre d'une vie équilibrée et normale. Mais le corps tout à fait confiant dans sa vie. C'est seulement si la pensée vient et qu'elle arrive avec toutes sortes d'imaginations, comme j'ai dit, morbides et malsaines, alors tout cela change. J'ai vu des cas comme cela, des enfants qui avaient de ces petits accidents et que l'on a quand on est court, quand on s'amuse, il n'y pensait même pas. Ça s'en allait tout de suite. J'en ai vu d'autres auxquels la famille avait sriné qu'ils ne pouvaient pas comprendre que tout est dangereux, qu'il y avait des microbes partout. qu'il faut faire très attention, que la maladresse d'une mauvaise blessure peut devenir désastreuse, qu'il faut absolument veiller soigneusement à ce que rien de grave ne se produise. Alors, je vais terminer bientôt. Alors, quand on les pense, il faut qu'on les lave avec du désinfectant et ils sont là à se demander qu'est-ce qui va m'arriver. Oh, je vais peut-être avoir le tétanos, une fièvre septique. Naturellement, dans des cas comme cela, on perd confiance en la vie et en le corps. Et comment le corps s'en ressent beaucoup. Les trois quarts de la résistance s'en vont. Mais normalement, naturellement, c'est le corps qui sait qu'il doit être en bonne santé et il sait qu'il a le pouvoir de réagir. Et si quelque chose arrive, il dit à ce quelque chose, « Ce n'est rien, ça va s'en aller, ne t'en occupe pas, c'est fini et ça s'en ira. » Ça, c'est la confiance absolue. Maintenant, tu dis une foi dynamique. Une foi dynamique, c'est autre chose. Si l'on a au-dedans de soi la foi en la grâce divine et que la grâce divine veille sur vous et que quoi que ce soit qui arrive, la grâce divine est là, veillant sur vous. Ça, on peut le garder toute sa vie et toujours. Avec ça, on peut traverser tous les dangers, faire face à toutes les difficultés. Et rien ne bouge, parce que vous avez la foi et la grâce divine qui est avec vous. C'est une force infiniment plus forte, plus consciente, plus durable, qui ne dépend pas des conditions de votre construction physique, qui ne dépend de rien que de la grâce divine elle-même. Par conséquent, qui s'appuie sur la vérité et que rien ne peut ébranler, c'est toute la différence. Voilà, alors je termine cet entretien du 7 octobre 1953. Et pour ce mois de novembre, Mère m'a fait un cadeau. Elle m'a mis en contact avec cet entretien qui parle comment on doit être simplement avec son corps. Je remercie infiniment Douce Mère et Sri Aurobindo pour cette lecture. Ganga Lakshmi.